affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons vérifier que décidément, rien n'échappe à l'histoire, que l'histoire peut embrasser l'ensemble des phénomènes et des élans humains, y compris même les plus mystérieux, ceux qui prennent naissance dans les tréfonds de son âme et de son cœur. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Yves-Marie Berset, qui signe une histoire des phénomènes d'hystérie collective, un livre titré « Esprit et démons » et publié à la librairie Wiber. Ce thème aurait pu, c'est ce qu'on imaginerait spontanément, être traité par, sous un angle médical, sociologique, ethnologique, psychologique, que sais-je, mais nous le verrons, le regard de l'historien est ici, comme souvent, extrêmement fructueux, car nous ferons, en la compagnie de notre invité, un voyage dans le temps et l'espace qui, loin de nous égarer, va nous permettre, par comparaison successive, par étude de cas, à mieux cerner ce phénomène des hystéries collectives qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Et ainsi, au-delà d'un voyage dans le temps et l'espace, nous ferons aussi une exploration de la nature humaine proprement dite. Il s'agit ici d'une histoire et d'un regard d'historien qui va nous mener aux confins de l'anthropologie. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne où vous étiez spécialiste de l'histoire moderne, que vous êtes directeur national honoraire de l'école des chartes et bien sûr membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, bonjour. Je suis très heureux, bien sûr, de pouvoir parler et de dépasser, si vous voulez, comme vous l'avez envisagé, des limites disciplinaires, c'est-à-dire de parler d'un sujet qui dépend de nombreuses lectures médicales, ethnographiques, psychologiques, psychanalytiques, mais qui trahit un peu, en quelque sorte, ses sources, mais qui, pour essayer de leur donner une dimension plus vaste, dans la mesure où je revendique pour l'histoire d'être la science du temps, c'est-à-dire d'embrasser toutes les formes de connaissances, de les dominer, puisque aucune n'échappe à la mesure du temps.
Alors vous dites dans votre introduction que c'est une histoire des phénomènes d'hystérie collective, mais que ce sont aussi des histoires. C'est la méthode que vous avez retenue, c'est-à-dire de braquer, de mettre l'éclairage sur un certain nombre de cas qui sont documentés, et révélateur du phénomène. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer quand même, circonscrire ce qu'il s'agit, phénomènes d'hystérie collective.
Oui, un mot pour l'histoire, pour la définir, je crois vraiment que l'histoire ne peut être qu'une somme d'histoires de vie. Il y a une image que je reprends, enfin que j'aime à reprendre, c'est dans la cathédrale d'Albi, des fresques qui représentent le dernier jour, le jugement dernier. On voit l'ensemble de l'humanité qui sort des tombes et les individus qui sortent donc de terre brandissent devant eux, à la main, un petit livre qui est l'histoire de leur vie. Eh bien, l'histoire, comme science, ne peut être que l'immense collection de ces milliards d'histoires de vie que ces gens brandissent à la cathédrale d'Albi. Alors, revenons, si vous voulez, plus précisément à l'hystérie collective. C'est une collection de symptômes qui a été remarquée très tôt par les historiens de l'Antiquité, qui peut se rattacher, cette collection, à des types de désordres très différents, parce qu'on sait que Aujourd'hui, les médecins peuvent y reconnaître des symptômes de l'épilepsie, de l'alcoolisme ou d'autres troubles psychosomatiques. Cette diversité même de références pouvait égarer les médecins antiques. Pour eux, ces désordres du corps, avant tout féminin, c'est-à-dire des convulsions, des transes, des raidissements des membres, des exercices de force apparemment surhumaines, des postures impossibles comme le corps arqué pendant des heures, ne tenant sur le sol que par la nuque et les talons, des gesticulations, des gonflements des organes génitaux, des gonflements du visage, tout un tas de traits d'ailleurs qui ne sont pas susceptibles d'être simulé et qui, cependant, dans un cercle fermé, dans un couvent, dans une prison, dans une famille, dans une maison, paraissent contagieux. Alors, ces médecins antiques, dès le IIe siècle de notre ère, ont donné le nom d'hystérie sur utérus, avec cette hypothèse que, dans le trouble, si vous voulez, de la sexualité féminine, l'utérus serait susceptible d'errer à travers le corps, de rechercher avidement une semence masculine qui ne vient pas et que l'utérus donc se déplace à l'intérieur de l'organisme provoquant ces convulsions. Alors d'où le nom donc d'hystérie. Mais cette hypothèse des déambulations de l'utérus était déjà critiquée au IIe siècle par Galien qui disait que c'était une forme aberrante d'envisager qu'il y ait une sorte d'indépendance des organes qui puisse à l'intérieur du corps avoir une sorte d'autonomie. Mais finalement, le mot d'hystérie a été conservé dans l'enseignement médical et professé jusqu'au courant du XVIIe siècle. On n'y croyait plus, bien sûr, à cette divagation de l'ustérus, mais on s'y référait comme une sorte d'explication métaphorique qui pouvait rendre compte d'un domaine avant tout gynécologique. Et puis vient la fin du XVIIe siècle, et là, c'est quelque chose qui était compris depuis longtemps, mais qui est théorisé à ce moment-là, chez les médecins français, italiens, anglais, spécialement anglais, on se réfère toujours à Thomas Sydenham, qu'on appelle l'Hippocrate de l'Angleterre, qui écrit dans les années 1680, et qui explique ce que tout le monde avait bien compris, que un trouble de l'esprit, mind, peut se répercuter sur le corps, body, et que ne fût-ce que le tremblement de la peur, claquer des dents, c'est une expression, une somatisation, dira plus tard Freud, d'une émotion, d'une impression. Et donc, avec Sydenham, on voit que dans le répertoire des maladies, ce qu'on appelle la nosologie d'une époque et d'un lieu, on va faire transférer les symptômes hystériques du chapitre des maladies féminines, de la gynécologie, aux maladies nerveuses qui sont supposées transmettre les émotions depuis le cerveau jusqu'au corps. Alors, il faut dire également que ces médecins de la fin du XVIIe siècle, c'est un véritable tournant, constatent aussi qu'il y a peut-être 10-15% de victimes de crises d'hystérie qui sont des hommes et que par conséquent, il y a une confirmation là. Il faut rechercher ailleurs, dans la maladie nerveuse désormais, l'explication, l'encadrement de l'hystérie.
Alors là, on a fait un bond de plusieurs siècles entre l'Antiquité.
Dans l'explication médicale, si on peut dire, dans le regard extérieur.
Voilà. Mais entre-temps, et c'est par cette période que commence votre ouvrage, la fin du Moyen-Âge, disons, pour simplifier, l'explication est aussi de nature religieuse, spirituelle. Votre livre est titré « Esprit et démon, on est dans la période que vous appelez
de démonomanie. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas constater que dans les pays occidentaux, entre grosso modo le 14e, 15e siècle, mais plutôt la fin du 15e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle, la référence à la présence du démon dans le monde, dans les comportements, dans la vie humaine, est obsédante, omniprésente. Et c'est quelque chose... Alors, que le démon soit présent dans le monde, ce n'est pas une spécificité chrétienne. Il existe dans l'islam, dans toute forme de croyance, dans le judaïsme. Que le démon soit présent, c'est une banalité, on dira, mais qu'il le soit aussi intensément, qu'on le recherche avec cette inquiétude persistante, c'est vraiment un propre de l'Occident entre le 15e et le 17e siècle. C'est ce qu'on appellera, en faisant attention particulière, aux issues judiciaires, la chasse aux sorcières. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une croyance unanime. C'est en ce sens que je préfère employer le terme de démonomanie. Alors, comment la démonomanie s'explique, va entrer en explication avec l'hystérie ? Eh bien, c'est qu'on va penser que, dans un certain nombre majoritaire de cas, les symptômes hystériques proviennent de l'introduction du démon qui s'est incorporé dans le corps d'une victime innocente, une sainte femme, des jeunes enfants totalement innocents, et le démon s'empare d'eux par une sorte de défi à la création, puisque le corps humain à l'image de Dieu est créé par Dieu, et donc détourné de son essence, de sa nature, par le démon qui ricane, s'est emparé, il possède l'individu, mais il le possède de temps en temps. Il ne peut pas expulser l'âme, l'esprit, la personnalité du personnage. Il est en quelque sorte une personnalité, on dira ce que diraient aujourd'hui les psychiatres, une personnalité alternative, une scission de la personnalité. Tantôt c'est vous et moi, et puis tantôt c'est le démon qui parle. Alors une jeune fille, prise de convulsion, parle comme si c'était le démon. Elle parle d'une voix rauque, affreuse, elle dit des blasphèmes. Elle parle d'elle-même à la troisième personne du singulier, puisque c'est le démon. Il dit « la fille, elle fait ci, elle fait là ». C'est le démon qui... C'est pas elle qui parle, c'est le démon qui s'est emparé de son corps, de sa voix, de ses organes, de ses gestes. Et donc, la réponse que peut faire l'Église, c'est d'essayer, comme l'avait fait le Christ dans les Évangiles, donner l'ordre au démon de partir, c'est-à-dire c'est le geste de l'exorciste.
Alors ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, les manifestations de l'hystérie à cette époque-là adoptent le langage du religieux. Donc il est assez naturel qu'on puisse penser que la source se trouve bien dans le démon.
Voilà. L'Église, cependant, est toujours, à cette époque, prudente. À toutes les époques, et elle se défie beaucoup des manifestations surnaturelles. Et on voit... dans ces examens de possession, de cas de possession, les ecclésiastiques demandaient l'expertise préalable de médecins. Ceci au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Et alors, quelle est l'attitude, la réponse des médecins ? Ils vont examiner, est-ce qu'il s'agit de cas dont ils ont l'expérience, qui se rencontrent dans ce qu'on appelle les petites maisons où on enferme des aliénés, qui sont furieux, frénétiques, maniaques, toutes les formes de folie qui ont été caractérisées depuis Hippocrate, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui dépasse les connaissances humaines de par des exercices qui sont au-delà de l'humanité, de la force que peut avoir une faible femme et qui donc ne peuvent être attribués qu'à des éléments surnaturels qui ne cesse d'être la compétence du médecin et qui doit donc revenir entièrement à l'examen des exorcistes.
Alors vous décrivez également que cette expression par le blasphème et autres de l'hystérie trouve sa source bien évidemment dans un cadre culturel, une forme d'accord culturel entre le possédé, entre guillemets, l'exorciste, le public et la communauté dans laquelle
oui,
s'inscrit.
Oui, c'est-à-dire ce qu'ils ont de commun, le possédé, l'exorciste et les spectateurs, les parents qui entourent la scène, partagent la même conviction, c'est-à-dire de la présence du démon. Ils jouent des rôles opposés, mais ce sont des rôles dans un même répertoire, dans un même théâtre affreux. De la démonomanie, ils sont opposés, mais en fait, ils partagent tout à fait la même interprétation des phénomènes.
Peut-être faut-il préciser d'ailleurs que lorsqu'il y a des cas de possession, cela peut avoir des suites, comme vous l'avez dit, les chasses aux sorcières, des conséquences judiciaires, car si quelqu'un a été...
C'est-à-dire que ce n'est pas, bien sûr, le possédé qui est coupable. D'ailleurs, c'est une confusion là, que beaucoup d'historiens au XIXe siècle, même encore aujourd'hui, font. Ils croient que l'Église persécute les possédés. Absolument pas. Elle cherche à les défendre. Ce que vont chercher les juges temporels ou les exorcistes ecclésiastiques, c'est d'où vient ce malheur de possession ? Est-ce qu'il ne résulte pas d'un sort qui a été jeté, puisque c'est une capacité des sorciers, des serviteurs du démon, qui ont donné leur âme au démon, qui ont reçu en échange des pouvoirs particuliers, de pouvoir permettre de jeter un sort et donc de permettre au démon d'envahir le corps d'un voisin, d'un ennemi, d'une pauvre personne qui a le malheur d'être à côté.
Le plus fascinant dans ces histoires, c'est celui qui découle du mot collectif. Car pour l'instant, là, on pourrait avoir l'impression d'une relation particulière entre une personne un peu déséquilibrée ou en souffrance, en faiblesse psychologique, et un exorciste qui serait là, et des médecins, des gens qui l'entourent pour la soigner et l'aider. Mais dans les cas que vous évoquez, il y a une contagion, parfois même extrêmement spectaculaire.
Voilà, alors c'est ce qu'avaient observé les médecins donc dès l'Antiquité. Ce qui les effrayait le plus, c'était le caractère contagieux, communicable. Alors, je cite un petit cas en introduction, parce que qui se situe à côté, dans les environs de Toulouse, à Saint-Aurens, en 1681, ce qui est intéressant parce que c'est à la fin du XVIIe siècle, un moment justement où les interprétations changent radicalement. On voit une idiote du village qui est prise d'hystérie, qui est effectivement certainement atteinte peut-être d'épilepsie, et qui se livre dans l'église au cours de l'été à des gesticulations qui font d'abord rire, parce qu'on est habitué, en quelque sorte, dans les villages, à voir tous les jours l'idiot, le crétin du village qui fait partie, en quelque sorte, de la communauté. Et puis, on voit des petites jeunes filles, des meilleures familles de la petite cité, de la bourgade de Saint-Aurens, qui, à leur tour, quelques semaines plus tard ou quelques mois, vont être elles aussi prises de convulsions, comme l'idiote convulsive de... qui s'appelait la Closette, je crois, et qui jouait, vous voyez, on est là dans ce théâtre villageois de l'ancienne société rurale, où il y a, là aussi, il faut l'interpréter comme des rôles assurés. Et ce qui inquiète, à juste titre, les braves familles, c'est que leurs filles, simples, gentilles, vont être apparemment être possédés. Alors, ils incriminent, ils pensent aussi, puisqu'on est dans les Pyrénées, il y a beaucoup de sorciers dans les Pyrénées, dans les montagnes en général, ils vont supposer que leurs filles sont victimes d'un sort jeté. Il faut trouver quelle est la personne qui est à l'origine. Donc, ils portent plainte au Parlement de Toulouse, et il y a une suite, c'est donc la Tournelle, la chambre criminelle, qui est chargée d'examiner le cas. Et la justice va, comme toujours, comme l'Église le faisait auparavant, demander d'abord, consulter des médecins de la faculté de Montpellier ou de Toulouse qui vont se prononcer, et c'est ça dans le cas là de Toulouse en 1681, ils vont se prononcer pour une origine naturelle. Il n'y a pas de sorcier, il ne faut pas chercher une origine surnaturelle. Tout simplement, ces filles ont un symptôme nerveux qu'il faut guérir avec des tisanes ou avec de l'hélébore et du repos. Et puis surtout, et c'est ça une précaution que déjà avait pris empiriquement des directeurs d'école ou de couvent auparavant, séparer les malades, séparer les filles, qu'elles ne soient plus en communication les unes avec les autres. Et c'était quelque chose qui peut paraître tout à fait simple, mais encore au XIXe siècle, en 1862, Charcot, le grand médecin de l'hystérie, enfin, qui a le plus décrit par la photographie notamment, en 1862, il devient directeur de l'hôpital de la Salpêtrière. Et il constate avec effarement qu'on met dans la même salle commune des épileptiques qui ont des symptômes d'agitation organique et puis des hystériques qui, eux, n'ont aucun trouble morbide particulier et qui ont un trouble mental et qui se mettent à imiter les gesticulations des épileptiques. Donc, en 1862, un des premiers gestes de Charcot est de les séparer. Donc, ça veut dire que, bien que ce soit, ça nous paraisse avec, mettons, l'espèce d'insolence qu'on a en prétendant juger le passé, examiner le passé, ça veut dire que cette évidence était conçue, mais qu'on ne la mettait pas en application et qu'encore en 1862, il faut l'intervention d'un grand médecin pour séparer et pour éviter justement la contagiosité.
Oui, car le cas que vous citez à proximité de Toulouse, dans les Pyrénées, c'est donc la fin du XVIIe siècle, mais on va retrouver des cas d'hystérie collective tout au long de l'histoire, et quelques cas célèbres, même au XIXe.
Oui, alors c'est-à-dire que, puisque on fait un bilan là, chronologique, on a évoqué tout à l'heure l'ensemble des longues crises des monomanies et le cas particulier de la possession. Il y a d'autres formes, bien sûr, d'hystérie qui ne sont pas nécessairement examinées comme démoniaques et au contraire, l'esprit qui vient d'au-delà peut-être une inspiration sainte, peut-être le Saint-Esprit. On a l'exemple, donc, à la fin du XVIIe siècle, avec la révocation de l'édit de Nantes, l'angoisse, le trouble dans lequel se trouvent plongés de très grand nombre de gens simples, des campagnes, du Vivarais, des Cévennes, qui...
Des hommes protestants, donc.
Des protestants, oui, et qui, voient la fin de leur croyance, apparemment anéantie par un tyran, ils y lisent des signes annonciateurs des derniers jours, peut-être le tyran va-t-il s'effondrer ou se convertir, et ils ont des inspirations qui viennent du ciel. Ce sont souvent des enfants, on dit les petits bergers des Cévennes, qui ont donc des visions, enfin ils sont saisis, avec des symptômes hystériques, ils sont saisis cette fois par le Saint-Esprit qui leur permet, au cours de leur crise, de leur transe, d'apercevoir par exemple la présence d'un informateur dans l'assemblée du village qui les trahirait, l'approche des dragons venus de Nîmes, et puis les gestes de repentance qu'il faut adopter pour pouvoir conjurer le malheur. Et puis, également, autre symptôme qui était, qu'on avait repéré, que l'Église avait repéré dans les crises de possession, c'est la capacité de parler en langues inconnues ou en langues étrangères. Ces petits bergers des Cévennes qui parlent en occitan, en langue d'oc, se mettent à parler, alors qu'ils sont illettrés, ils se mettent à parler en très bon français. Dans quelle langue parle-t-il ? Mais la langue de la Bible, c'est la langue en réalité des prêches du dimanche qu'on leur fait en français, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, mais qui retiennent avec cette espèce d'hypermnésie de capacité mémorielle gigantesque qu'ont les petits-enfants, que tout le monde a pu observer si on a des enfants de 3 ou 4 ans qui sont capables de réciter sous forme d'onomatopée, qui ne comprennent pas n'importe quel dessin animé qu'ils auraient observé à la télévision. Alors, je prends cette comparaison qui est déplaisante, mettons réductionniste, mais ils répètent la Bible comme on répète les exploits de Donald en bande dessinée, plutôt en dessin animé à la télévision. Et un peu plus loin, alors, on est dans à peu près dans les mêmes décennies, après les petits prophètes des Cévennes, qui sont donc les années 1690-1705 au plus tard, on a, en 1730, les moments des convulsionnaires jansénistes de Saint-Médard. Et là aussi, ce sont des persécutés, enfin des supposés persécutés, qui expriment leur désarroi par ces crises de transe. Et comme pour les petits prophètes des Cévennes, la transe n'est pas un châtiment, un malheur, c'est au contraire la preuve de la justesse, de la justice de leur cause, puisque le Saint-Esprit vient les inspirer. C'est la transe même devient donc à la fois la révélation de leur sincérité, de la vérité de leur cause, et un remède, puisque ils désirent la convulsion. Elle n'est pas imposée par le démon, elle vient au contraire de l'invasion du Saint-Esprit qui prouve que c'est le diacre Paris, c'est Jansénius qui ont raison et qui sont persécutés. Alors on a l'hystérie, donc, vous voyez, est exactement les mêmes symptômes, mais elle a changé de sens.
Oui, elle est devenue même recherchée.
Elle est recherchée, oui.
Elle est recherchée et apparaît donc son caractère ritualisé, si je ne me trompe pas. En réalité, même dans la première version, c'est un rituel, mais inconscient, mais tacite. Alors qu'ici, c'est réellement recherché, comme ça pourrait l'être dans d'autres formes de religiosité, je ne sais pas, spirit, chamanique.
Oui, mais alors, il faut faire toujours le départ. L'explication par la simulation, par l'entraînement, est toujours réductionniste. En fait, la sincérité n'est pas en cause, même s'il y a pu avoir au départ une sorte d'imitation volontaire, pas uniquement compulsive. C'est-à-dire que on croit, on le raconte, qu'ils viennent sur la tombe du diacre Paris, dans le cimetière Saint-Médard, et qu'on leur dit, eh bien, si vous voulez entrer en communion avec l'esprit du diacre Paris, il faut vous mettre en disposition de la transe. En quelque sorte, ils s'y mettent volontairement. Et ensuite, la transe les entraîne beaucoup plus loin qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Et les magistrats qui croient pouvoir dénoncer uniquement de la fraude se trompent, bien entendu. Simplement, le système va ensuite dans la très relative persécution, parce qu'en fait, beaucoup de membres du Parlement de Paris subventionnent même les spectacles de convulsions. Mais dans la simili-persécution, ils vont trouver un entraînement, je veux dire, une poussée plus loin et une systématisation, l'invention de tortures volontaires pour figurer la mort du Christ sur la croix. C'est-à-dire, on va aller de plus en plus loin dans se faire percer de clous, se faire fouetter, atteindre par des barres de fer, pour, par la souffrance, parvenir, au-delà de l'hystérie, à la figure du Christ.
Alors dans une multitude de ces exemples, ce qu'on sent, c'est que l'hystérie arrive, surgit dans des situations de détresse, soit collective, soit simplement personnelle. Est-ce que c'est une des clés d'explication ?
Oui, on a l'impression que la scène de possession, qui a ses rites, qui a sa théâtralisation, les scènes d'inspiration des petits prophètes des Cévennes ou des convulsionnaires jansénistes, correspondent à un rite culturel qui a pu être transmis depuis longtemps ou qui se construit dans l'instant selon des modèles plus lointains et qui se cristallise à un moment donné. Je ne sais pas où je veux exactement en venir. Voilà, c'est l'idée qu'on a construit un théâtre culturel adapté et qui est... Alors, un refuge. Alors, comment ces convulsions qui sont douloureuses, qui sont affreuses, peuvent-elles être regardées comme un soulagement ? Ça peut être paradoxal, mais c'est le moyen d'accéder à une sorte d'expression maladive que la communauté, la famille, l'environnement sait reconnaître. En quelque sorte, le malade, enfin l'hystérique, est au centre de l'attention. On sait quelle est la sorte de malheur il subit. Il est désormais reconnu, catalogué. Et c'est une sorte d'asile, non pas contre la douleur, mais pour la reconnaissance de son malheur. Et en même temps, c'est donc une forme de fuite. On échappe à la reconnaissance explicite. Il faudrait s'avouer qu'on a une frustration, un remords, un regret, un chagrin, un malaise, et qu'on n'est pas capable d'expliciter. Et le saut dans les rites culturels particuliers de l'hystérie en offre le refuge.
Oui, une sorte de narration toute prête qui s'offre toute à des prête. Personnes en détresse.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai repris en conclusion le texte, enfin, un parallèle avec la pièce de Pirandello, six personnages en quête d'auteur. Comme Pirandello, qui est génial, il écrit en 1921, c'est l'idée qu'on a des types de personnages. Comme, je ne sais pas moi, des personnages du théâtre, comme il y a des types de rôles dans la comédie italienne, où il y a le polichinelle, il y a l'usurier, l'amoureuse, et que ces types, des types de malheurs, en l'occurrence, beaucoup plus loin que le théâtre des marionnettes, cherchent un auteur qui va les mettre en scène. Eh bien, là... c'est un peu différemment, ce sont des malheureux qui sont en quête d'un refuge théâtral qui explique leur malheur. Le théâtre de la possession, le théâtre du vaudou aux Antilles, le théâtre des djinns dans les pays du Maghreb, offre une sorte de théâtre, de décor dans lequel le malheur peut s'inclure, se trouver son explication. Il y a donc un soulagement qui va être différent, bien sûr, selon les époques, selon les types de culture, mais qui a toujours ce mouvement, faire coïncider son propre malheur avec un théâtre culturel adapté.
Oui, qui permet une réintégration dans la communauté, et même d'être placé au centre de celle-ci. Il y a presque une petite dimension presque narcissique. Soudain, on est
dit narcissique. Ah bien, il est certain. Alors toujours, en prenant la précaution de rejeter l'idée de simulation, il y a une recherche narcissique, comme vous l'avez dit, un besoin de spectacle, d'exhibition, et de la part du voisinage, qui exerce sa compassion, mais aussi son voyeurisme, qui attend ce type de spectacle, qui le trouve fort triste, mais qui le trouve en quelque sorte normal dans l'anomalie. C'est la forme que dans cette communauté, dans ce village, on doit prendre lorsqu'on est dans telle et telle situation tragique.
Pour éclairer cela, est-ce que l'un des meilleurs exemples n'est pas celui de la fameuse Tarente dans les Pouilles italiennes?
Alors, là, c'est vraiment un jeu social. C'est là une construction culturelle qui est là beaucoup plus, effectivement, capable de définition. On la voit apparaître sans doute très tôt, peut-être dans l'Antiquité. En tout cas, elle est présente au XVe, XVIe siècle et on la voit disparaître de nos jours à la fin du XXe siècle. Elle a été étudiée, décrite parfaitement par un ethnologue italien, Ernesto De Martino, en 1963, où là, elle était encore assez présente dans donc, ce qu'on appelle la province de Tarente, on dira les Pouilles, c'est-à-dire le talon de la botte italienne. Il s'agit, selon la tradition, si vous voulez, la Vulgate, au cours de la moisson, qui est dans un pays très chaud au courant de juin, vers la Saint-Jean, donc vers le vin, les femmes participent à la moisson, elles le font pieds nus, les hommes sont en sabots, et se font piquer par des araignées, des champs, des tarentules, et le venin de la tarentule les rend malades, et pour les guérir, il faut faire venir des musiciens qui, avec des cornemuses, des flûtes, vont trouver l'harmonie particulière du venin, dans la mesure où tous les animaux, toute la création, si vous voulez, a une certaine révèle en elle-même des éléments harmoniques. Les araignées sautent ou ont un venin particulier qui correspond à un certain rythme, une certaine mélodie. Les musiciens, qui sont professionnels, enfin tout au moins occasionnels, mais très experts et gagés, et viennent, ils vont chercher quelle est la musique, la tarentelle, qui correspond au venin de la tarentule. Et ils vont la trouver peut-être, mais il faut des heures, des jours souvent, pendant lesquels la victime va danser et rejeter la sueur et en même temps le venin de l'araignée. Et alors cette explication, cette tradition très claire au XVe, XVIe siècle et même au-delà, correspond aux catégories de la médecine savante de l'époque, de la médecine humorale. On est supposé, comme vous le savez, avoir quatre humeurs qui gouvernent notre organisme, le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Notre santé dépend de leur équilibre, leur tempérament, tempérare, ça veut dire équilibré. Et donc, il faut, lorsqu'on est trop de bile noire, trop de bile jaune, enfin, expulser cet excédent, c'est ce que font les médecins. Ils font rejeter la bile noire et le venin. Donc, on a là une convergence d'une connaissance pseudo-savante et de la conviction, enfin, d'une longue tradition populaire. Ensuite, ce qui est plus troublant, c'est que on pourrait imaginer qu'effectivement ces gens soient guéris, que ce soit pas seul, que soit le venin, mais que le venin aussi corresponde à une frustration sentimentale, à un chagrin profond, à une mélancolie essentielle, et qu'il corresponde à l'intoxication du venin, ou qu'il en prenne les mêmes formes, et que la musique, l'exercice de danse, vienne à les guérir. Mais ce qui est étrange, c'est que l'année suivante, au retour de la Saint-Jean, les symptômes reparaissent et la victime se remet à en faire revenir les musiciens. Alors que l'infestation de l'araignée revienne à chaque fête de la Saint-Jean, est évidemment plus étonnant et fait donc supposer que l'explication psychologique peut avoir sa pertinence. Alors simplement, on est porté par, je dirais, un petit romantisme facile ou par une vulgate freudienne à y voir des chagrins d'amour. Mais il y a toute forme de désespoir autre. Le chagrin d'amour peut être très important, mais il y a toutes sortes de formes de désespoir. Ce n'est pas nécessairement des miséreux. Il faut, la famille paye et on a... Là, c'est une, la famille se sent obligée de le faire. Et elle serait méprisée si, ayant une membre de sa famille qui soit dans ce désarroi, elle ne ferait pas, fasse pas tout ce qu'il faut pour la guérir avec, selon la cure musicale habituelle.
Et qui coûte extrêmement cher.
Il coûte quoi ? Enfin, dans ce, dans ce petit monde paysan, oui, il y a vraiment un métier, on le sait, à l'époque moderne, c'est un petit, les musiciens, un petit métier. Alors, ils font ça pour la maladie, mais aussi, ils vont dans les fêtes de village. C'est des musiciens itinérants classiques de l'ancienne société rurale.
Mais de cette façon, en investissant du temps, de l'argent pour prendre soin des leurs, et en s'inscrivant dans ce rite, en fait, c'est une façon aussi de réordonner la société, de se sécuriser, probablement de craintes personnelles ou sociales. On a vu que précédemment, ces craintes pouvaient prendre la forme du démon. Ici, il s'agit d'une piqûre d'araignée et des troubles qui s'en suivent, donc c'est plus d'ordre déjà un peu sanitaire. Enfin,
C'est-à-dire qu'il y a une construction culturelle. Voilà. C'est pour ça que l'exemple du tarantisme est très fort, puisqu'il a un commencement, une fin, une localisation précise, des rites qui sont logiques. Alors, une localisation précise, parce qu'on voit qu'au XVIe siècle, il s'étend à la Calabre, et au XIXe siècle, au XXe siècle, il est uniquement limité aux Pouilles. Il n'y en a plus du tout en Calabre. Il y a une apparence, des symptômes assez comparables en Sardaigne, qui sont disparus dès les années 1930-1940, alors que le tarantisme des Pouilles existait encore dans les années 1970-1980.
Alors, il pourrait y avoir une tentation, c'est de se dire finalement ces manifestations d'hystérie collective, elles trouvent leur source dans ces croyances religieuses, dans ce cadre culturel et autres. En réalité, il semble que ce ne soit pas le cas. Ces croyances donnent la forme de l'expression, mais ne sont en aucun cas la source.
Dans le cas du tarantisme, le clergé ne s'en intervient pas.
Oui, mais je veux dire, même la culture locale n'est pas la source du tarantisme, mais elle explique la forme que peut prendre l'expression des angoisses, des craintes. Après tout, des croyances et des craintes, il y en a certainement aujourd'hui. A-t-on identifié aujourd'hui encore des phénomènes d'hystérie collective ? Quelle forme peuvent-ils prendre dans des sociétés plus sécularisées ?
C'est-à-dire que les médecins n'emploient plus le terme d'hystérie. Il parle de désordre psychologique collectif. L'idée, c'est que dès lors que dans une communauté, sans qu'il y ait de prédisposition organique, un certain nombre de membres de cette communauté présentent les mêmes désordres physiques ou mentaux, sous forme contagieuse, on peut parler effectivement d'un phénomène d'hystérie collective. Aujourd'hui, on a des cas, souvent, il faut imaginer une communauté fermée ou un malaise, par exemple, dans un cercle d'un internat, la limite d'une classe, d'une prison, d'un atelier. Mais une communauté fermée, elle peut être très étendue. On pourrait dire que des gens qui écoutent une même émission de télévision forment une sorte de communauté invisible. Donc l'ensemble d'une communauté peut être affecté par le désordre d'une personne index initiale qui est prise d'un malaise parce qu'elle n'a pas eu de petit déjeuner le matin, parce qu'elle a perdu un parent ou elle a une déception quelconque. Et à l'intérieur d'une classe de petites jeunes filles, plusieurs autres, dans la même matinée, vont succomber, vont s'évanouir, vont avoir des crises de transe. On en trouve des exemples en Angleterre ou en soit en France. Simplement, aujourd'hui, on n'y attache pas du tout la même importance. Elles ne deviennent, n'attirent l'attention des médias que lorsque il y a une sorte, on peut invoquer une sorte de causalité politique. Alors j'ai cité le cas qui est plus célèbre parce qu'il se situe à Jenin dans la zone palestinienne, où c'est dans les années 1980, des écoles de fillettes palestiniennes sont prises de malaise qui s'étendent dans plusieurs bourgades et qui sont de Jordanie et qui ont, atteignent même plusieurs centaines, 700 à 800 personnes. Les organisations palestiniennes incriminent les Israéliens des expériences qui auraient été entreprises par l'armée israélienne et demandent des enquêtes internationales. Et l'Organisation mondiale de la santé prend l'affaire au sérieux. Il y a donc, on a des comptes rendus médicaux et faits par donc, des médecins de plusieurs nationalités. Et on arrive bien sûr à analyser avec beaucoup de précision, comment a commencé l'affaire qui provient de malaise de fillettes du fait d'odeurs particulièrement nauséabondes, soit de toilettes, soit de cantines, soit de tuyaux d'échappement de camions, et qui provient par une sorte d'allergie particulière de l'une d'entre elles, le phénomène est qui s'étend ensuite par contagiosité. Dans le cas de l'affaire de Jenin, je vous ai dit, 700 ou 800 victimes, enfin personnes qui sont guéries au bout de, on les amène, on leur fait prendre quelques heures de repos et c'est fini. Mais parmi ces 700 ou 800, il y a même quelques soldats israéliens, quelques petits garçons, donc c'est pas uniquement les écolières palestiniennes. C'est, ce qui est intéressant là, bien sûr, c'est l'extraordinaire contagiosité et le fait que le phénomène-là attire l'attention des médias parce qu'il a une implication politique surajoutée, donc on en a parlé. Mais la plupart du temps, bien sûr, c'est des phénomènes qui passent inaperçus, qui n'attirent plus l'attention.
Mais dans ce cas-ci, il est aussi révélateur d'un cadre culturel spécifique, celui voilà, de la crainte du voisin israélien.
Et avec l'idée, puisque sans idée de polémique, on voit bien que les parents de ces enfants vont chercher une cause qui justifie le malaise de leurs enfants. On ne va pas dire qu'ils ont simplement des convulsions parce qu'ils ont un équilibre, une fragilité nerveuse particulière, ce qui est en quelque sorte incriminant, enfin presque insultant. Et donc dire que c'est une conspiration de la CIA ou que des profits quelconque d'une société industrielle qui fait des essais alimentaires ou
pharmaceutiques, vous citez.
Oui, ou pharmaceutiques, voilà. Incriminer donc une cause glorieuse et en quelque sorte qui permet la polémique, qui permet de rejeter la culpabilité sur. Alors le diable n'est plus là, il n'est plus en cause, mais comme vous savez, la meilleure ruse du diable, c'est faire croire qu'il n'existe pas.
Et chacun aujourd'hui continue donc
de chercher le diable,
ses croyances, ses
peurs. De chercher le diable quelque part.
Pour conclure, au final, à travers les siècles, à travers des manifestations extrêmement diverses, finalement, c'est le même homme hein, qui se balade à travers l'histoire, avec ses espoirs déçus, ses envies, ses détresses, ses fragilités.
Oui, alors j'ai voulu la prendre, et je pense que cela me vaudra des critiques légitimes, c'est-à-dire j'ai voulu rassembler des épisodes qui sont dans des périodes et dans des contextes culturels et géographiques très différents. Et j'ai voulu les faire sortir de leur coquille historiographique, de leur appartenance à une chronique historique précise, comme par exemple le jansénisme ou bien la chasse aux sorcières, et de les mettre en quelque sorte en perspective à travers, au-delà donc des séparations trop classiques de l'historiographie, enfin de l'enseignement, et de retrouver une explication historique globale qui représente, enfin la conception qui me semble la plus valide de l'histoire comme anthropologie culturelle. Je crois vraiment que l'histoire et la science du temps, que donc elle englobe l'ensemble des connaissances. En ce sens, elle est une forme d'anthropologie culturelle. Simplement, il faut, et je crois qu'on peut revenir finir là-dessus, la lire dans le sens où des événements, l'histoire, elle commence très loin dans le passé et elle va en avant, elle avance dans la chronologie, c'est-à-dire que aujourd'hui et à toute époque, on est souvent tenté de raconter le passé en fonction des idées, des passions du jour et de reporter dans le passé, souvent en le ridiculisant, en le déformant, des idées, des convictions de l'instant. Et ça, c'est faux, profondément faux, essentiellement faux, si je veux dire, puisque le temps n'est pas réversible. Et il faut lire l'histoire dans le sens du déroulement du temps.
Merci beaucoup Yves-Marie Berset. J'irai même plus loin lorsqu'on on se plonge dans l'histoire. On croit souvent jeter un coup d'œil dans un rétroviseur pour observer le passé et pouf, que voit-on apparaître ? Son propre visage, car le visage de l'humanité finalement ne change pas tant que cela. Et c'est peut-être pour ça que le passé peut nous en apprendre aussi beaucoup sur nous-mêmes. En tout cas, c'est le cas lorsqu'on se plonge dans votre ouvrage, dont je rappelle les références, « Esprit et démons, histoire des phénomènes d'hystérie collective » par Yves-Marie Berset. C'est à la librairie Vuibert. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Thank you.